Aujourd'hui à Oumedounia, Alissar et Marie au micro. Nous allons vous présenter Madame Nathalie Asmat-Ruchot, qui a écrit son premier ouvrage, Le Caire, l'inconnu dévoilé. Elle est aujourd'hui à nos côtés.
Bonjour, voulez-vous nous parler de votre vécu en Égypte? Depuis quand y vivez-vous?
Alors, moi, je suis installée en Égypte depuis 3 ans. Et ça fait depuis 2006 que je suis venue tourner des images ici et que ces images ont donné naissance à ce livre.
Pourquoi trouvez-vous que l'Égypte est si passionnante?
Pour plein de raisons. L'Égypte, c'est un pays passionnant pour son histoire. Et puis moi, je me suis beaucoup plus intéressée aux gens d'aujourd'hui, aux Égyptiens d'aujourd'hui. Et je suis allée arpenter le Caire en particulier pour découvrir leur vie, pour découvrir qui ils sont. Et c'est ce que j'ai voulu traduire dans mon livre et donner un témoignage de la ville d'aujourd'hui.
Dans votre premier ouvrage, Le Caire, l'inconnu dévoilé, nous avons lu que Djibouti vous fait penser à l'Égypte. Pourquoi?
Alors Djibouti, c'est mon enfance et Djibouti, c'est d'abord un pays musulman, comme en Égypte. Donc c'est une des choses qui m'a rapprochée de mon enfance ici. Djibouti et l'Égypte, c'est aussi le désert. Et là, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'à mes côtés, j'ai mon compagnon qui est Helal et qui est bédouin du désert libique, donc de l'oasis de Bahariya en particulier. Et tout ça, c'est aussi en rapport avec mon enfance, c'est le désert et c'est ce qu'on partage tous les deux aujourd'hui.
Par qui et où ont été prises les photos à la fin de votre ouvrage?
Alors, toutes les photos sont mes photos, puisque je suis photographe aussi. Et donc, toutes les photos qui sont sur le site internet, qui sont sur mon livre et qui seront sur mon prochain livre, sont toutes des photos de ma création.
Pouvez-vous nous parler de votre prochain récit sur Helal le Bédouin?
Voilà, c'est ce qu'on disait, ça tombe bien, la question tombe très bien. Mon prochain récit, c'est un récit qui partagera à la fois des souvenirs de mon enfance à Djibouti et de l'enfance d'Helal, qui est un vrai bédouin, qui a arpenté le désert parce qu'il était d'une famille de nomades. Et moi, les nomades, j'en ai connu aussi dans mon enfance. Et mon prochain livre racontera et son enfance à lui et la mienne, et le patrimoine des Bédouins, parce que c'est un patrimoine oral qui n'est pas par écrit. Et donc moi, j'ai envie de le mettre par écrit pour laisser une trace et pour que les enfants d'Elal et les enfants après, et les enfants de l'Oasis et mon fils aussi, gardent une trace de nos souvenirs.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier?
Les avantages et les inconvénients du métier. Mon métier, j'en ai plein de métiers. Hein. Je suis photographe, journaliste, je suis aussi guide dans le désert avec Helal, je suis auteur. Si on parle du métier d'auteur, la difficulté, c'est d'arriver à trouver assez de concentration quand on fait plein de choses comme moi pour pouvoir écrire. La difficulté, c'est aussi de se trouver face à une page blanche. Ça arrive aussi hein, assez souvent. Après, quand j'ai une idée, c'est vrai que si je me concentre et que l'idée vient, je peux écrire 8 heures d'affilée. Quand j'ai mon idée, je la suis et je m'arrête pas tant qu'elle n'est pas épuisée. Et j'écris pas tout le temps, donc j'essaie de prendre du temps. Et donc voilà, mais le métier d'écrivain n'est pas un métier facile, mais c'est passionnant.
Rentrez-vous souvent en France?
Pas très souvent, parce que d'abord je me sens bien ici, j'ai beaucoup d'occupations. La dernière fois que je suis rentrée, c'était pour présenter mon livre à Paris et dans ma région, et faire une exposition de photos à Paris. J'y rentre de temps en temps, ça me manque un petit peu bien sûr parce que j'ai ma famille là-bas, mais je suis tellement bien en Égypte que c'est vrai que ça me manque pas tellement de rentrer en France.
Pourquoi dédiez-vous votre livre à vos parents et à votre fils Alexandre?
Je dédie ce premier livre à mes parents parce que je pense que sans eux, sans le parcours qu'ils m'ont permis de faire quand j'étais enfant et de me faire connaître cette vie que j'ai eue et je pense assez extraordinaire à Djibouti et dans d'autres pays après, sans eux, sans ce goût qu'ils m'ont donné d'aller vers les autres et de découvrir et de partager, j'aurais jamais écrit. Maman était institutrice, elle m'a appris à écrire. À écrire des récits, à trouver des auteurs, à aimer lire, à aimer écrire. Je lui dois beaucoup. Donc c'était évident pour moi que ce premier ouvrage il soit dédié à mes parents. Et puis mon fils, parce que mon fils m'a accompagnée dans les premières heures de mon tournage ici. Il aime l'Égypte, il connaît bien l'Égypte, il connaît bien Helal, il connaît le désert. Et j'avais envie de lui dédicacer ce livre parce qu'il sait que ça a été un long parcours pour moi. Il sait que ce livre ne s'est pas fait tout seul. Il était à mes côtés très très souvent. Et donc ce livre lui revenait aussi.
Comment avez-vous réussi à communiquer avec les Égyptiens pour compléter votre ouvrage?
Alors au tout début, quand je suis venue filmer, je ne parlais quasiment pas du tout l'arabe. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait le français dans mes premières heures de tournage au Caire, dans les quartiers populaires. Il m'a accompagnée assez souvent pour être mon interprète, surtout avec la danseuse Farida Farmi, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas non plus très très bien l'anglais. L'anglais était un peu loin dans mes études. Et donc, j'avais vraiment besoin d'un interprète. Donc, Farida Farmi, en particulier, c'est lui qui a été l'interprète, cette personne-là dans les quartiers. Autrement, c'est ce que je disais l'autre jour au cours d'une rencontre littéraire ici chez Oumel Dounia. La barrière de la langue n'est pas une barrière pour moi. Quand je me suis trouvée toute seule avec ma caméra au cœur de la Cité des Morts, j'avais personne pour interpréter quoi que ce soit, mais ça ne m'a absolument pas empêchée d'aller à la rencontre des gens, de vivre des moments extraordinaires, parce que tout passe aussi par le regard, le sourire, le comportement, le fait de prendre une main, de se laisser guider. C'est ça qui est important. Et donc, la langue n'est pas forcément une barrière dans les rencontres. Moi, je ne pense pas. En tout cas, ça n'a pas été mon cas.
Pourquoi avez-vous appelé votre livre « Le Caire, l'inconnu dévoilé » ?
Ah, ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Ce n'est pas du tout un jeu de mots par rapport au voile. C'est simplement que le Caire, quand j'ai appris à le connaître, il m'était totalement inconnu. Et donc, j'ai pensé qu'à travers quand même ce livre, je dévoilais au moins une petite facette de ce Caire qui m'était inconnu.
Nous avons lu votre récit que nous avons beaucoup aimé. Merci d'être venu spécialement pour nous à la librairie Oum El Dounia. Au revoir.
Au revoir.
I speak English.
Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez parler de votre enfance comme bédouin ou...
You can speak for your when you was young in the desert.
Ah oui, OK. You are She will translate. I speak English. I born in Bahariya. Bahariya, it is after Cairo, 400 kilometers. Bahariya, it is Bedouin.
Libique. Et là, elle est née dans le désert libique. Et lorsqu'il était petit, l'oasis de Bahariya, c'était surtout une oasis composée par des bédouins qui étaient nomades. C'est-à-dire qu'ils allaient d'oasis en oasis avec leur troupeau de chameaux et la famille entière. Et donc Helal est quelqu'un qui a vécu toute son enfance jusqu'en 1982. Il est né en 1967. Hein. Jusqu'en 1982, sa famille est restée une famille de bédouins. Donc pendant 8 mois, 7 mois, 9 mois de l'année, ils partaient traverser tout le désert avec leur troupeau. Et donc, c'est quelqu'un, un des derniers, qui peut se rappeler de cette période-là, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont sédentarisés. Et c'est son père et son grand-père qui ont été les derniers à se sédentariser. Donc, il a des souvenirs, lui, de cette enfance de bédouin dans le désert, avec les chameaux.
Est-ce que vous avez aimé en partie d'être nomade? Ou est-ce que vous aurez aimé vivre stable dans un appartement ou dans une petite maison? Sans vouloir tout le temps bouger.
You prefer to be Bedouin in the desert or you prefer to have life, same anybody with flat, with everything?
No, I prefer Bedouin because this is my life. It is I burn in the desert. I feel. Without my family Bedouin, I am not a family. My closest it is Bedouin. I don't change. I am in Cairo, but normally Cairo everybody change clothes, pantalon, jacket like this. Me, I cannot change my clothes. It is the life in Bedouin. It is free. It is opening more in Cairo because it is desert. I feel I'm better in this life and I don't like to change this life.
Est-ce que la vie c'est facile quand on est bédouin?
Life is easy. Bedouin life is easy.
Of course, for us, for Bedouin, it is very easy. But for the other people, if they are live in Bedouin, it is very difficult for them because it is different in the city. In the city, it is easy, you are fine, everything quickly, but in the desert, no. Same in water in the desert. If we don't have water in the desert, we cannot live. But and Bedouin, they can find the water in the desert. Why? They will be see a little, make a little hole, a spring, and the water it is coming, and they make a little water between 1 meter by half a meter, and after we will make some fire for this water, because it is all the water in the desert, it is salt, it have salt, and we will make fire, and we will take the salt out, and we will take very good water, more in natural water you see in the bottle.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la librairie Homeldonia en compagnie de sa fondatrice et directrice, Madame Agnès de Biage. Nous aimerions que vous nous parliez de votre activité de rédactrice du guide de routard.
Par qui et quand a été fondé le guide du routard égyptien ?
Alors, le guide du routard est une collection qui a été fondée, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais dans les années 70-75, par un monsieur qui s'appelle Philippe Glohagen, qui était breton. Donc ce n'est pas un guide du routard égyptien, c'est un guide du routard en fait par pays. Le tout premier pays qu'il a fait, c'était l'Inde. Il était parti en fait avec un sac sur le dos. Il était parti comme voyageur et il s'est dit que finalement, toutes les petites découvertes que lui faisait en tant que voyageur routard, c'est-à-dire se promenant un petit peu sur les routes de l'Inde, il pourrait les faire partager à d'autres voyageurs. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée du guide du routard, c'est-à-dire que des voyageurs partent en repérage, en tirent un certain nombre d'informations très très utiles pour les autres voyageurs, pour les aider, pour leur faire gagner du temps. Et tout le monde comme ça participe à élaborer un guide avec des informations très très à jour.
À qui est destiné le guide du routard ?
Alors, à l'origine, le guide du routard était essentiellement pour de jeunes voyageurs qui partaient avec peu d'argent, un sac à dos, qui allaient dans des endroits pas très chics, mais qui du coup avaient besoin de plein d'informations très très pratiques pour voyager et découvrir le plus possible de choses en dépensant le moins d'argent. Et puis, ces voyageurs ont avancé dans l'âge. Petit à petit, ceux qui avaient 20 ans dans les années 75 ont aujourd'hui le double, voire plus. Et du coup, ces gens-là se sont un petit peu embourgeoisés, ont aujourd'hui plus d'argent, sont plus âgés, donc veulent des conditions de confort un peu plus importantes. Et aujourd'hui, le guide du routard s'adresse vraiment à tout le monde. C'est avant tout un guide d'information pratique, plus qu'un guide uniquement pour les voyageurs à petit budget.
Avez-vous fait le guide de l'Égypte toute seule ?
Alors en fait, quand j'ai commencé à travailler, moi, pour le guide du routard, il y a maintenant 16 ans, le guide du routard Égypte existait déjà. Il existait déjà, mais c'était un guide où il y avait en fait plusieurs destinations. Il y avait l'Égypte, il y avait Israël, il y avait le Yémen et il y avait, je crois, la Jordanie. Aujourd'hui, petit à petit, tous ces pays ont été enlevés du guide, ont fait l'objet de guides séparés. Et en fait, le guide Égypte s'est étoffé d'année en année avec de plus en plus d'informations, de plus en plus de rédactionnels, de nouvelles régions qui se sont ajoutées, comme par exemple les oasis.
Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver et rassembler toutes vos informations ?
Alors, c'est un travail très difficile parce que il faut d'abord tout vérifier. Tout vérifier, c'est très très important, puisqu'en fait, quand on écrit quelque chose, on sait que derrière, il va y avoir entre 30 et 50 000 lecteurs qui vont le lire. Et donc, la moindre erreur va perturber le voyage de plein de gens. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il faut faire attention à ce que les gens vous disent, les hôteliers, les restaurateurs et autres, puisque c'est normal, ils essayent, eux, de faire leur promotion. Or, il faut essayer de discerner un petit peu dans tout ça la part de vérité et en fait essayer de remettre ça dans un cadre qui s'adresse aux voyageurs, essayer de garder une certaine neutralité par rapport à tout ça, c'est surtout à ce niveau-là. Maintenant, ensuite, il faut énormément chercher parce que l'objectif pour quelqu'un qui travaille pour le guide du routard, c'est quand même de faire des découvertes. C'est d'abord d'avoir des informations très à jour et de faire des découvertes de nouveaux endroits, de nouveaux hôtels, de nouveaux restaurants, de nouveaux lieux que finalement personne ne connaîtra. C'est ce qui fera un petit peu l'originalité du guide du routard.
Avez-vous visité tous les hôtels qui sont dans votre guide ainsi que les restaurants ?
Alors oui, j'ai visité absolument tous les hôtels. Quand on dit visiter, c'est visiter l'hôtel, aller voir la salle à manger, voir éventuellement la cuisine, voir plusieurs chambres. Parce que sinon, l'hôtelier a un petit peu tendance, dans certains cas, à vous montrer que la plus belle chambre. Or, il faut un petit peu tout voir. Et puis, il faut faire très, très attention à tous les petits détails qui, finalement, en disent très long. Vous pouvez avoir en face de vous un hôtelier charmant qui vous montre le plus beau de son hôtel, mais vous vous rendez compte que vous avez les poubelles dans un coin dans le jardin, que tous ces petits détails finalement trahissent un petit peu la véritable nature de l'hôtel. Donc il faut faire très attention à ça, c'est important.
Combien de temps avez-vous mis pour assembler toutes les informations ?
Alors moi, quand je travaille pour le guide du routard, je vais vous dire, par exemple le Caire, on part du principe que c'est à peu près 7 jours de repérage. Là, je vais faire les oasis l'année prochaine pour le routard. Les oasis, ça va être une douzaine de jours, de Siwa jusqu'à Kharga. Après, comment dire, on a Luxor, c'est 3 jours. Donc, c'est un travail très, très intense. Ça veut dire qu'on commence le matin à 8h30 et puis on finit le soir souvent à 10h. Et puis, on n'arrête pas de visiter des hôtels, des restaurants, mais également d'aller voir les sites et d'aller voir aussi les compagnies de transport de bus, la gare. Il y a plein de choses à tester dans une ville. Donc, c'est un travail très intense. Pour le Caire, par exemple, c'est environ 7 jours de travail.
Pourquoi avez-vous arrêté le guide du routard ? Cela vous manque-t-il ?
Alors j'ai arrêté pendant 2 ans le guide du routard, là je reprends cette année. C'était pour des raisons personnelles. C'est parce qu'en fait, j'ai eu des petits soucis en France et j'étais obligée 2 années de suite de rentrer sur la France à la période du mois d'avril, qui est généralement la période que je consacre à ce travail-là. Néanmoins, mon nom continue à être sur le guide du routard, même celui de cette année, alors que je n'ai pas collaboré avec eux l'année dernière. Et on entretient une très, très bonne relation. La preuve, c'est que là, je recommence à travailler avec eux sur une des régions d'Égypte.
Revenons à votre librairie. Nous avons appris que vous avez ouvert une sécurale à Mahadi. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, alors nous avons en fait ouvert un deuxième magasin Oumeldounia à Mahadi. Alors pourquoi ? D'abord parce que Mahadi, c'est loin du centre-ville. C'est quand même 15 km. Que beaucoup de gens habitent Mahadi et ne viennent pas beaucoup au centre-ville. Que le centre-ville est un coin très très encombré au niveau de la circulation, on a du mal à se garer. Donc c'était un petit peu une sorte de facilité pour les gens qui habitaient Mahadi que d'aller pour nous ouvrir un magasin là-bas. À l'origine, c'est un magasin où il n'y avait pas de livres et nous avons décidé, suite à la demande de beaucoup beaucoup de nos clients, d'ouvrir un coin librairie également à Mahadi.
Avez-vous d'autres projets pour 2011 ?
Alors aujourd'hui, mes grands projets se concentrent avant tout sur l'animation de mes librairies, faire découvrir des auteurs, mettre en avant un petit peu ces rencontres entre les lecteurs et les auteurs. Nous avons fait venir là à l'automne, malheureusement ça tombait pendant les vacances de Toussaint du lycée, l'écrivain Gilbert Sinoué. Nous espérons monter d'autres projets d'animation au cours de l'année 2011 et ça va être un petit peu notre cœur de cible au niveau des nouveautés. On va vraiment mettre ça en avant parce que une librairie, c'est bien sûr des livres dans un espace, mais c'est aussi une rencontre avec des auteurs, c'est aussi une discussion, c'est aussi parler de textes, c'est aussi se retrouver comme ça tous ensemble aujourd'hui pour échanger entre nous.
Merci de nous avoir pour notre visite.
Nous, 12 élèves de 5e A, avons pris le métro à l'occasion d'une sortie à la librairie Oumeldounia. Le métro est le moyen de transport le plus utilisé. On a voulu savoir pour quelles raisons. Nous leur avons demandé si le métro est le meilleur moyen de transport concernant les points suivants. L'argent, la rapidité, le confort. À présent, on vous laisse découvrir le reportage fait par Farida, Hussein, Mariam et Godefroy.
Dans le métro, à l'aller, on a rencontré un homme qui lisait un journal. On lui a demandé quels sont les avantages du métro par rapport à l'autobus et le microbus.
Et احسن من الاتوبيس والميكروباص في المترو؟
لا احسن من الميكروباص والايه
والاتوبيس.
لا هو المترو احسن. ليه بقى دلوقتي في الوقت الحالي ليه احسن؟ عشان خط الجو بقى زحمه قوي بره، المترو بيكون واخد اسرع، بيكون واخد خطه بيكون اسرع. لو عايزه، لو انت شايفه ان انا ما جبتش بشكل كويس قولي لي اجاوب لك تاني.
ليك السعر، هل هو غالي ولا رخيص السعر؟
لا السعر في منتهى الجمال. تعرفي انا من حوالي 6 سنين كنت بقول هو ليه رخيص المترو فغلوه، فاتضايقت ان هو غلوه، بس هو كده برضه كويس. جنيه انت عارفه بتروحي بيه حته كويس جدا.
في ادب للمترو بيضايقوك؟ في ناس في المترو بيضايقوك بالنسبه للادب؟
هو بص الادب في حاجه لطيفه جدا بالنسبه ان احنا عندنا بس عيب واحد، ان الصوت لما حد بيشغل الموبايلات ساعات بيشغل الاغاني بصوت عالي، انت فاهمه؟ يعني انت مش عارف تسمع الاغاني ديت، فانت تسمع ساعات في النزول والطلوع دي بقى ابوخك. لما تيجي تطلع تلاقي في ناس بيزقوك، ناس مش عارف، مفيش مكان للنزول مفيش مكان للطلوع، فهم لو لقوا حل الموضوع هم حاولوا حل الموضوع ده، بس يا رب حل لي. وانتوا هتشوفوا هيحصل لكم ايه.
Il a dit que le métro était plus rapide et prend une seule route.
Pour vous, le prix du ticket est-il abordable?
Il a dit que le prix est correct et depuis 6 ans, il voyait que c'était bien. Il était fâché quand le prix a augmenté, mais maintenant ça va, car avec une livre, on peut aller où on veut.
La politesse est-elle respectée quand les wagons sont pleins?
Il a dit que c'était bien, mais les défauts sont que si une personne met de la musique forte, tout le monde doit entendre. Et l'autre problème est la montée et la descente. Elle est très gênante et il doit avoir un responsable pour ces problèmes-là.
Dans le métro, au retour, on a rencontré une femme qui était seule. On lui a posé des questions. La première, quels sont les avantages du métro par rapport à l'autobus et au microbus?
Le métro est un important moyen de transport.
Pourquoi?
Car il peut contenir des centaines de personnes et ses horaires sont fiables. Il n'y a pas d'agent de police qui peut les arrêter, je veux dire.
Pour vous, le prix du ticket est-il abordable?
Oui, raisonnable.
La politesse est-elle respectée quand les wagons sont pleins?
Oui.
Pourquoi prenez-vous pas la partie réservée aux femmes?
Car il est loin des escaliers. Le wagon pour femmes sont que deux.
Prenez-vous toujours le métro?
Oui, car je travaille.
Comment était l'aller au métro?
Moi, j'ai trouvé que ça s'est bien passé. Il y a juste eu quelques enfants qui avaient un peu rigolé quand on leur avait posé question.
Il y avait un petit garçon, quand on a essayé de lui demander, il a commencé à se moquer de nous, mais à part ça, c'était bien. Et je trouve pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est mieux que d'aller dans des microbus, c'est plus propre. Et les prix sont plus abordables que les taxis et tout ça.
Dans le retour, il y avait des garçons qui nous a embêtés, mais à part ça, c'était trop bien.
Est-ce que ça vous a plu?
Oui.
Même si à la fin, il y avait un peu de gens qui nous dérangeaient, c'était bien, les gens pouvaient se lever de leur chaise pour qu'on s'assoie.
Oui, mais j'ai trouvé qu'il y avait des gens comme ça qui nous parlaient d'une façon très mal et qui se moquaient de nous.
Est-ce que c'est une nouvelle expérience?
Oui.
Non. Oui.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a plu dedans?
Moi, ce qui m'a plu, c'est la rapidité. Et de plus, c'est un prix correct.
J'ai aimé parce que c'était une très belle expérience, parce que je n'ai jamais pris le métro dans toute ma vie, donc c'était une très belle expérience.
Oui, car... Il n'y avait pas d'agent de police qui peut l'arrêter car il prend une seule route et c'est une nouvelle expérience et c'était amusant avec Monsieur Gazio, Madame Giraud et Madame Aude.
Mais
Est-ce que vous étiez serré dans le métro? Est-ce que vous étiez dérangé?
Moi, je trouvais qu'on était un peu serré au retour. De plus, il n'y avait pas assez de place. Il y avait presque personne dans la classe qui était assis. Mais aussi, hein, c'était bien.
On était un peu collés quand on allait en retourner, mais c'était bien. Je crois qu'il était bien aussi que les gens ne fumaient pas.
Et toi, Hussein, qu'est-ce qui t'a plu?
Moi, c'était une nouvelle expérience. Ça m'a beaucoup plu, même si on était serrés. Moi, tout ce que je me souviens, c'était les bons trucs qu'on a fait. Quand on a interviewé les personnes, c'était amusant.